très heureuse d'inviter Bernard Gazier à cette première séance de l'année 2010. Bernard Gazier est professeur à Paris 1 et chercheur au CES et membre de l'Institut universitaire de France. Bernard Gazier est d'abord économiste du travail, je ne sais pas ce qu'il faut dire d'abord, mais est économiste du travail et de l'emploi. Mais on sait peut-être moins que Bernard Gazier, depuis très longtemps, est aussi un historien de la pensée économique. Un de ses premiers livres a été un livre qui s'intitule « Or et monnaie » chez Martín de Azpilicueta, qui est l'ancêtre de Jean Bodin, à quelques années près, si je me souviens bien, 3 ans avant.
12 ans avant, c'était un tube ce bouquin.
Et puis plus récemment, évidemment, le petit livre sur John Maynard Keynes qui servira de support à l'exposé de ce soir, et le livre sur la crise de 1929. J'ajoute aussi quand même que, en bon normalien, Bernard glisse toujours des références historiques très construites, très bien amenées dans ses livres d'économie du travail. Je pense à La pauvreté unidimensionnelle, je pense à Tout sublime, où il y a toujours un historique du débat, où il y a une manière de repenser la partie analytique à la lumière d'un regard historique qui légitime tout à fait sa présence ce soir dans le cercle épistémologique. Voilà, tu connais les règles du jeu, 1 heure d'exposé, 1 heure de questions à toi.
Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici devant vous. Effectivement, ce qui motive ma présence, c'est ce petit livre sur Keynes, donc, qui est un petit livre au format imposé. Ça fait nécessairement 128 pages, pas plus, pas moins, parce qu'en fait, 128 pages, si vous divisez en deux, ça fait 64, si vous divisez en deux, encore, ça fait 32. Bref, c'est une seule feuille qui est imprimée en un seul coup et qui, ensuite, devient un bouquin. C'est pour ça que c'est ce format que vous avez. Alors, ce petit livre a été pour moi, lorsque on m'a proposé de l'écrire, a été, je dirais, une chance, un défi, et un peu un poids quand même, parce que écrire sur un auteur de ce calibre-là, c'est toujours difficile. Annie a eu la gentillesse de dire que je me suis toujours intéressé à l'histoire de la pensée, c'est vrai. D'un autre côté, l'essentiel de mes travaux de recherche porte plutôt sur le marché du travail, avec ou sans recul historique. Et donc, il a fallu en quelque sorte que je vienne renouer avec toute une série de préoccupations pour me remettre à la rédaction d'un ouvrage d'histoire de la pensée. On va voir d'ailleurs tout à l'heure qu'il n'est pas que d'histoire de la pensée. Alors, bien sûr, il y a des justifications à cette tentative, à ce défi, d'accepter ce défi. La première, c'est que derrière l'économie du travail, il y a toujours la question du chômage involontaire, il y a toujours la question du degré de contrôle qu'une collectivité a ou n'a pas sur ses chômeurs, et Dieu sait que c'est une question d'actualité, et de ce point de vue-là, Keynes est central, fascinant, donc j'ai toujours eu un œil là-dessus, sans très bien savoir toujours quoi en faire, hein, mais c'était là. D'un autre côté, effectivement, j'ai, étape par étape, dans mon propre itinéraire de recherche, rencontrer diverses dimensions qui aujourd'hui peuvent converger un petit peu dans cet ouvrage. Alors, je rappelle juste qu'en 2000, j'ai eu l'occasion de faire un exercice là aussi inattendu, qui consistait à faire un documentaire télé qui est passé sur Arte et qui était là sur Keynes et qui s'appelait « Le capitalisme sous antidépresseur ». On avait trouvé ça comme titre. Et je l'ai réalisé avec ma collègue Françoise Bénamou et avec un réalisateur, Gilles Nadeau, parce que nous n'avons pas l'un ni l'autre la capacité d'organiser, de réaliser un documentaire télé. Alors ça a été une expérience tout à fait passionnante et je considère que ce livre est un petit peu dans la ligne des interrogations qui ont été générées à cette occasion. Alors bon, ça c'est les justifications. Un petit mot peut-être sur le contexte évidemment très particulier dans lequel nous sommes. Je vais partir de la couverture du supplément des Échos de décembre 2009, donc la fin du libéralisme, et en plus petit, il y a marqué Keynes, l'homme de l'année. Bon, je parle de ça. Keynes a dominé sans partage le savoir et la pratique des économistes occidentaux pendant 30 ans, en gros, de 1945 à 1975, quasiment sans partage, même s'il était gratigné, même si on n'en était pas content. Ensuite, il est passé aux oubliettes, carrément. Hein, et il y a quelque chose qui a été de l'ordre du rejet, de l'ordre finalement de l'ignorance délibérée. Et puis, voilà, aujourd'hui, il revient. Alors, c'est évidemment une source d'interrogation, je dirais presque d'excitation. Et si maintenant je fais le lien avec l'épistémologie, ben, il est assez simple. On peut considérer que Keynes a revendiqué, Keynes et ses partisans ont revendiqué une forme de rupture épistémologique. Il y a un avant et un après Keynes. Il y a la naissance, pas tout seul, mais quand même largement grâce à Keynes, de la macroéconomie. Et puis, on peut considérer qu'il y a eu en fait une contre-révolution. Alors, c'est celle de Lucas, celle des anticipations rationnelles. Et cette contre-révolution, ben, il semblerait qu'elle arrive aujourd'hui, peut-être pas à son renversement, mais en tout cas à ses limites. On a l'impression que c'est un petit peu fini, l'ère de l'expansion lucassienne, ça revient, le balancier revient en quelque sorte en direction de Keynes. Alors, c'est évidemment intéressant de se situer à ce moment, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Lucas s'est vraiment terminé? Est-ce que ça signifie un retour à Keynes? Vous voyez toutes les interrogations qui sont là. Alors, ça me mène à vous présenter mon travail en deux parties. Dans une première partie, je voudrais revenir rapidement, ça ne sera pas très très long, sur les défis que l'on doit se poser, que l'on doit relever lorsque l'on prétend s'intéresser à un auteur de ce calibre. Donc ce sera mon premier point, je le ferai un peu profil bas. Et puis, j'indiquerai que derrière les défis, il y a aussi des points d'appui. Et heureusement, donc on peut s'en saisir, et c'est ce que j'ai tenté de faire dans ce petit exercice au format imposé. Ça, ce sera donc ma première partie. Et puis dans une deuxième partie, eh bien, j'en viendrai à quelques-unes des grandes réponses aux questions que j'ai commencé à soulever. Comment lire Keynes aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs points de vue, plusieurs possibilités que je voudrais argumenter devant vous. Alors je commence donc par ces défis. Mais il me semble qu'en ce qui concerne Keynes, le premier défi, ben, il évoque un autre théoricien, c'est Herbert Simon. Le premier défi, c'est celui de la surabondance de l'information. Je crois que sur Keynes, on sait absolument tout. Il y en aura encore plus, mais c'est déjà démesuré. Et cela défie l'investigation systématique. Alors, je vais vous donner quelques exemples de cette surinformation, cette véritablement abondance, enfin, notre capacité d'attention est d'emblée débordée par l'information que nous avons à propos de Keynes. Je vais vous donner quelques exemples. Les biographies. Alors, il y a déjà trois grandes biographies. La première, celle de Harrod, fait 800 pages. La deuxième, celle de Mogridge, en fait 940. Et la troisième, celle de Skidelsky, en fait 1700 en trois tomes. Si déjà vous avez envie de lire ça jusque dans les notes, ça va vous prendre du temps. Alors voilà un premier exemple. Alors évidemment, au-delà de ça, il y a les commentateurs, il y a les keynésiens, d'obédience, comme vous le savez, diverses, et qui ne sont pas toujours charitables, c'est le moins qu'on puisse dire entre eux. Hein. C'est très électrique, le groupe de tous les keynésiens. Il y a donc les commentateurs, il y a tout ça. Il y a l'œuvre elle-même de Keynes, qu'est-ce que c'est? Ben, pour l'instant, c'est 30 volumes, et il y en a encore qui se rajoutent, qui sont là, donc 30 volumes, ça tient à peu près dans mes bras, voilà. Et ben, lire tout ça, ça peut occuper aussi un bon moment. Vous avez donc ces 30 volumes, c'est pas fini. Keynes était aussi quelqu'un qui rédigeait énormément de lettres. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque de Keynes, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas ce genre de choses. Et en fait, il envoyait des lettres pour certaines, aujourd'hui, deviendraient des SMS. Mais il y a aussi beaucoup de lettres qui ne sont pas du tout comme ça. Elles sont par milliers et elles sont encore en train d'être inventoriées, d'être exploitées. Alors, on voit des articles de chercheurs qui disent, ben voilà, j'ai lu telle catégorie de lettres à telle catégorie de personnes, jusqu'à présent, je n'ai pas regardé, ça modifie l'image de Keynes durant telle ou telle période. Par exemple, on sait mieux ce qu'il faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, il avait un lit à l'intérieur du ministère des Finances, là où il était, et évidemment, que faisait-il, comment ça se passait, mais maintenant on le sait mieux. Et donc vous voyez que l'information ne cesse de grandir. Alors, évidemment, c'est un plaisir, parce que quand on prend des ouvrages récents sur Keynes, on trouve des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Et puis, ça rajoute au défi. Alors, voilà donc cette surabondance d'informations. Et évidemment, quand on vous dit, voilà, il faut synthétiser, comment faut-il faire? On a évidemment un problème ici assez complexe. Si c'était que ça. Mais alors, prenez par exemple la théorie générale. Ah, la théorie générale, comme vous le savez, c'est un ouvrage qui n'est pas facile à lire. Hein. Alors, il y a des passages faciles. Il y en a d'autres qui ne sont pas lus. C'est un ouvrage dont la langue est parfois aride, parfois lyrique, parfois polémique. C'est un ouvrage très difficile. Et vous le savez sans doute, en France, pour l'instant, en plus, c'est mal traduit. Donc il y a une édition ancienne, respectable, mais qui me paraît aujourd'hui obsolète. Et il suffit de se plonger dans la langue originale de Keynes pour voir que le traducteur a vraiment voulu se protéger face à un certain type de dynamique langagière qui pourtant permet de comprendre ce qu'il veut dire le plus souvent et qui est parfois très loin. Alors, j'évoque aussi quelque chose que vous savez sans doute, il y a l'expression célèbre des esprits animaux qui est chez Keynes. Eh bien, Jean de l'Argentais dit « dynamisme naturel ». Pour isoler un concept, c'est mal parti. Alors maintenant, ça a été corrigé, mais nous sommes face à des problèmes langagiers. Alors derrière ça, encore d'autres problèmes apparaissent, c'est que comme vous le savez, Keynes était un personnage multiple, qui faisait des tas de choses, qui a été homme politique, semi-homme politique, qui a été journaliste, qui a été homme d'affaires, spéculateur, protecteur des arts, mécène, et toutes ces dimensions, à chaque fois, trouve dans son œuvre une illustration, un écho, parfois des considérations spécialisées. Par exemple, il y a beaucoup de travaux de Keynes sur qu'est-ce que c'est que la beauté, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a tous ces éléments-là, et Keynes, en quelque sorte, croule sous la diversité de ses activités. Alors, ça rajoute un problème, et pour certains auteurs, ça peut même être une opportunité. Alors j'en ai vu un, je voudrais le marquer, parce que ça, pour moi, ça passe pas. C'est l'ouvrage d'Alain Minc, qui s'appelle « Ce diable d'homme », qui est un ouvrage consacré à Keynes, très récent, où il dit « Quel type merveilleux, quel diplomate, quel mécène, quel mondain, quel spéculateur !» Et puis, dans un passage, on voit, quant à son économie, là, son mécanicisme du revenu, c'est pas bien. Autrement dit, Minc réussit à ensevelir Keynes sous des fleurs en supprimant la seule chose qui est intéressante, c'est-à-dire le fait que c'est un immense économiste. Le reste est passionnant, c'est un personnage de roman, mais si Keynes s'importe, c'est parce qu'il a fait quelque chose en économie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais bon, ça, on en discute, et puis on le met à sa place. Et donc je suis très choqué par ce livre qui, de mon point de vue, est une mauvaise action. D'ailleurs, comme parfois certaines mauvaises actions, elle arrive un peu tard, puisque c'est juste le moment où on est en train de reconsidérer Keynes en tant qu'économiste. Bon, alors, tout ceci me mène évidemment au défi principal. Jusqu'à présent, je n'ai vu que des défis périphériques. Juste avant d'entrer. Alors, le défi principal, évidemment, c'est la question, c'est quoi la macroéconomie? Est-ce que créer la macroéconomie ou catalyser, cristalliser la macroéconomie, c'est quelque chose qui implique une rupture au sein du savoir économique? Et si oui, laquelle? C'est ça la question, elle est là. Et donc, il faut essayer de réexaminer en quelque sorte un peu ça aujourd'hui avec toute l'expérience qui a été accumulée là-dessus. Il faut donc un regard rétrospectif. Et ce regard rétrospectif, de mon point de vue, ne pouvait pas ne pas aller jusqu'à aujourd'hui. J'aurais pu m'arrêter en 1946, bien sûr. Mais voilà, John Maynard Keynes, il est mort en 1946, terminé. J'ai voulu écrire un chapitre qui s'appelle « Keynes après Keynes ». Et je pense que ce chapitre était justifié, sinon je ne l'aurais pas fait, bien sûr. Mais à ce moment-là, je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Alors, avec, évidemment, un enjeu qui devient un enjeu très difficile. Comment discerner, comment pondérer dans Keynes et l'impulsion, la tradition, ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que là, il y a des interrogations qui changent de nature. Il ne s'agit plus simplement de situer un auteur dans son époque, mais d'aller jusqu'à des pratiques qui sont celles d'aujourd'hui. Que font aujourd'hui les macroéconomistes? Est-ce que ça dépend plus ou moins de ce que Keynes avait prévu. Et là, on va retrouver bien sûr l'enjeu épistémologique que j'ai évoqué tout à l'heure. Il existe aujourd'hui des modèles macroéconomiques qui sont ouvertement, agressivement anti-keynésiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on peut évidemment se poser la question. Alors, ça, c'est toutes les difficultés. Vous voyez qu'à partir de là, bon, les bras vous en tombent. Hein, c'est évidemment un poids énorme. Alors, pour essayer de gérer ça, eh bien, il y a d'autres défis que je vais encore mentionner, mais qui sont des défis qui servent de point d'appui. Donc, des défis à partir desquels on peut travailler, on peut faire quelque chose. Je vais vous en donner quelques-uns. D'abord, Keynes, c'était un économiste qui ne voulait pas l'être. C'est un économiste récalcitrant. Il voulait faire autre chose. Il voulait faire des maths, il voulait faire de la philo. Il a essayé de passer un concours qui correspond un petit peu à peu près à l'ENA. Il a réussi, évidemment. Et puis, finalement, il a laissé tomber parce que ça l'ennuyait trop. Donc, Keynes est un économiste à reculons, en quelque sorte. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Quelles sont ses réticences? Où sont-elles? Qu'est-ce que ça veut dire? Du premier jeu. Ensuite, Keynes était une diva. Alors, Keynes était magnétique, hein, c'est-à-dire qu'il attirait l'attention, il était cassant avec ses collègues, il était odieux avec ses collègues, et gentil avec les étudiants. Keynes attirait une sorte d'excitation partout où il passait, et cette diva travaillait en groupe. Travailler en groupe, il y a autour de lui des disciples, dont certains étaient fanatiques, d'autres moins, il y a toute une série, comment dirais-je, de planètes hein, qui viennent graviter autour du soleil Keynes, et il leur écrivait sans cesse. Il y a 2000 lettres à 4 personnes durant la période de maturation de la théorie générale. Et 2000 lettres pour dire, oui, alors, j'ai écrit ça, est-ce que vraiment tu es sûr que c'est ça ce qu'il faut dire? Ah, si tu dis autre chose, je vais changer tout de suite. Bon, Keynes était une diva qui travaillait en groupe. C'est un paradoxe, hein. Mais je crois qu'il faut le mentionner, et c'est quelque chose qui, probablement, permet de comprendre que derrière Keynes, il y a une élaboration beaucoup plus complexe que simplement le génie d'un intuitif. Keynes, c'était aussi un universitaire qui ne voulait pas être universitaire. Alors ça, tout le monde sait que quand on lit la théorie générale, on trouve le professeur Pigou, dont on a tout de suite une image racornie. Le professeur Pigou est forcément une sorte de vieux cuir bouilli qui propage des idées révolues, etc. Lequel professeur Pigou était une sorte d'athlète, une sorte de grand viking, et lequel professeur Pigou a très longtemps été l'ami de Keynes, et puis Keynes n'était pas professeur, mais quasiment. Simplement, il n'avait pas exactement la charge complète, il s'était mis dans une position où il pouvait enseigner assez peu et garder sa liberté, et gagner de l'argent par ailleurs. Bon. Alors donc Keynes, qui était don, mais qui n'était pas professeur, se met à critiquer ses collègues. Et alors en fait, là aussi, il est à la fois dehors et dedans, et c'est un point d'appui intéressant pour comprendre sa position académique très particulière, qui évidemment exaspérait ses collègues, ce qu'on comprend facilement. Encore un paradoxe qui va nous aider et qui va nous introduire à quelque chose. Keynes a voulu faire des maths. Ouais, il était bon. Il était bon, il était très bon, il n'était pas fabuleux. Par exemple, à Cambridge, il y a un concours, une sorte de concours, ça s'appelle le Tri-Course. Et ce concours, Keynes l'a passé, il n'a été que 12e. Oh, déception, catastrophe, enfin, par rapport à tout ce qui se passait. Tout le monde considérait que c'était un surdoué, sa famille considérait que c'était un génie. Il n'est que 12e. Alors, Keynes est quand même très bon en maths. Eh bien, Keynes va passer sa vie à la fois faire des choses qui sont en rapport avec les statistiques, avec le quantitatif, etc., et à dire c'est pas avec ça qu'on peut créer. Donc, Keynes se défie des mathématiques alors qu'il est très bon dedans. Il a quand même fait aussi un traité sur les probabilités, qui est évidemment un traité en fait de mathématiques, hein, très formalisé. Et il y a là ce paradoxe d'un auteur qui se méfie des mathématiques, en tout cas comme voie de progression. Ça, c'est tout à fait une bien distance. Alors, tout ça, ça en fait déjà un personnage particulier. Rajoutons encore d'autres choses. Pour nous, Keynes est un personnage qui a réussi. Est-ce qu'on peut mieux réussir que cette vie de roman et cette influence qui demeure encore aujourd'hui? Mais, attendez, prenez le détail de la vie de Keynes. C'est quasiment que des échecs. Prenez le premier échec, c'est qui l'a rendu célèbre d'ailleurs, c'est il critique le traité de Versailles, s'oppose à ce qu'on fasse payer les réparations aux Allemands, et puis démission. D'ailleurs, il est à la limite de la dépression nerveuse, rentre pour se soigner, il était très fragile de santé, et il écrit son livre qui va se vendre à 100 000 exemplaires, qui est un best-seller, qui le rend célèbre, les conséquences économiques de la paix. c'est quand même un échec. Il n'a pas pu du tout peser sur les événements. Il était au cœur de l'appareil d'État, au cœur de la négociation, il n'a absolument rien pu faire. Prenez ensuite la crise de 1929. Alors Keynes, un demi-succès. On peut considérer qu'il a été partiellement écouté en Angleterre. En revanche, il n'a jamais convaincu Roosevelt, qu'il a rencontré plusieurs fois. Et le New Deal s'est fait sous l'influence de Commons et d'autres intellectuels, mais pas de Keynes. Et Keynes a écrit des articles dans les journaux. Il a rencontré Roosevelt, qui d'ailleurs, il a eu une légère tendance à lui faire la leçon, ce qui n'a pas énormément plu. Et Keynes n'a jamais suivi. Roosevelt n'a jamais suivi les revendications de Keynes. Prenez maintenant la Deuxième Guerre mondiale. Keynes organise l'effort de guerre de l'Angleterre. Et vers où ça débouche tout ça? Évidemment vers, comme vous le savez, le plan Keynes, hein, qui aurait été proposé à Bretton Woods, qui n'a pas été retenu, puisque c'est le plan White. Donc, échec de cette proposition, et échec lamentable. Pourquoi cet échec? Parce que les États-Unis sont les maîtres du monde à cette époque-là, ils font ce qui leur convient. Keynes est un Anglais, c'est le plan des Anglais, et les Anglais sont endettés vis-à-vis des États-Unis, et Keynes va négocier laborieusement le fait qu'il y ait un prêt à bas taux d'intérêt ou une annulation des dettes de guerre, un petit peu comme ce qu'il recommandait pour le premier conflit mondial. Il arrive simplement à obtenir un petit prêt qui ne couvre pas du tout les besoins de l'Angleterre, qui est donc complètement étranglé. Et donc Keynes, qui devient le premier directeur du FMI, mais tout de suite il a une crise cardiaque, et puis c'est fini, eh bien, Keynes, c'est en fait une vie qui est pleine d'échecs. J'en rajoute encore un. Toute sa vie, il a favorisé le parti libéral. Vous savez qu'en Angleterre, c'est bipartisan, et donc il y avait les libéraux et les conservateurs, les Whigs et les Tories. Keynes était Whig, mais c'est juste l'époque où ça va disparaître. Il va y avoir les travaillistes. Alors finalement, il va convaincre certains travaillistes, c'est vrai, mais lui n'est jamais vraiment devenu travailliste. Donc Keynes est toujours du côté des perdants. Et ça, je crois que c'est une remarque qu'on peut faire. Ça permet de situer un personnage qui est pas mal dans la révolte, contre le vent, ça c'est clair, hein, avec une constance qu'on peut trouver remarquable, sa manière de soutenir indéfiniment les libéraux. Hein, on dit souvent que Keynes est versatile, qui change d'avis. C'est vrai, il disait « quand les faits changent, je change ». C'est une formule connue de Keynes. Mais Keynes a été une fidélité dans son engagement politique jusqu'à l'inutilité. Enfin, soutenir les libéraux alors que le Labour est déjà dominant et que de toute manière l'organisation du partisan s'est stabilisée ailleurs, c'est vraiment tout à fait être du côté des perdants, vouloir y rester. Alors, ceci dessine un personnage qui a pour lui le sens de l'intérêt général d'une manière assez particulière. Ça dessine un personnage, s'il y avait à chercher des points d'appui, ce serait Norbert Elias, Sociologie d'un génie, qui a fait un livre extraordinaire sur Mozart. Eh bien, on pourrait tenter de faire quelque chose à partir des éléments que je viens de rassembler, qui seraient sur les motivations et les positions de Keynes. Voyez que nous avons ici un personnage ferrailleur. C'est un personnage qui avait un goût immodéré de la polémique, mais à cette époque-là, tout le monde aimait la polémique. Rencontrer un économiste, c'était croiser le fer. Si vous aviez un collègue pour une conversation à Cambridge dans les années 20, les années 30, c'est « Ah, je l'ai bien lu, vous avez vu ce que je lui ai mis ?» C'était comme ça. Et donc, Keynes fait partie de cette génération extrêmement polémique. Alors, nous allons maintenant, sur la base de ces éléments de repérage, eh bien, nous allons passer à quelques apports, quelques pistes que j'ai pu tenter d'explorer à propos de ce personnage. Tout de suite, j'indique une première chose, évidemment, je n'ai eu aucune prétention d'exhaustivité. Si vous voulez me pendre par les pieds et me faire dire que je n'ai pas lu l'intégralité du Treatise on Probability, vous pouvez, vous obtiendrez votre résultat, même sans me faire pendre par les pieds. J'en ai lu des bouts, j'ai regardé, j'ai vu des résumés, il m'a semblé que pour le que sais-je, ce n'était pas la peine d'aller plus loin. Aucune prétention d'exclusivité, premièrement. Deuxièmement, et là je vais peut-être vous décevoir, il existe chez Keynes toute une série de difficultés logiques sur lesquels les étudiants, les enseignants, les chercheurs se prennent la tête. Quelle est exactement la bonne définition du chômage involontaire? Joker, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Je pense que ce n'est pas la place d'un petit livre comme celui-là que de régler ce genre de choses. Il en existe d'autres qui tentent de le faire, souvent avec beaucoup de talent. Et il m'a semblé que ça n'était pas du tout mon rôle. J'ai donc, en quelque sorte, je vais peut-être vous décevoir, contourné un certain nombre de choses. Alors, l'interprétation du chapitre 2 de la théorie générale. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que les prix peuvent bouger, pas bouger là-dedans? Oh mon Dieu! On verra ça plus tard. J'en reste à quelque chose qui est beaucoup plus général. Je dirais que ce que j'ai tenté, c'est une vue cavalière. J'ai tenté une mise en perspective, d'abord de l'homme, de ses motivations, ensuite de sa trajectoire intellectuelle, ensuite de son accomplissement, bien sûr, la théorie générale, et ensuite de ses épigones. Vous voyez que c'est en quelque sorte une perspective un peu généalogique que j'ai voulu adopter. Alors à ce moment-là, il faut des points d'appui, bien sûr. Et les points d'appui, où est-ce que vous les trouvez? Eh bien, je voudrais indiquer quatre livres qui m'ont énormément apporté, que j'ai évidemment pliés sans vergogne, mais je voudrais reconnaître ma lettre. Alors évidemment, ils sont dans la bibliographie du petit ouvrage, mais je voudrais juste les indiquer. Il y a tout d'abord Gilles Dostaner, qui a écrit un livre qui s'appelle « Keynes et ses combats », et qui est un très joli livre. Vous verrez que tout à l'heure, je prendrai une petite distance, et j'aurai une petite taquinerie vis-à-vis de Gilles Dostaner, mais c'est un livre qui a énormément apporté, parce que c'est un livre qui prend toutes les dimensions de Keynes, et qui les rapporte à son projet, à la fois économique et anti-économique. C'est l'anti-minc, c'est dire si c'est beau. Et donc c'est vraiment à partir de là que vous pouvez travailler, c'est sérieux, c'est bien fait, c'est au cœur de l'affaire. Et évidemment, pour la dynamique de son œuvre, c'est parfois un petit peu difficile à utiliser, parce que comme il prend l'esthétique, la morale, il prend par grands blocs, du coup la dynamique de l'œuvre, on ne la voit pas beaucoup, il faut aller chercher la chronologie remarquable qu'il a faite pour ensuite comprendre un peu mieux comment ça s'agence au cours du temps. Donc un ouvrage absolument basique, donc Keynes et ses combats,
Alain Michel,
achetez-le s'il vous plaît.
Présenté au CERF des Pistes, il y a 2 ans, évidemment.
Voilà. Ensuite, j'avais besoin d'un contrepoids après Keynes. Pour pouvoir prendre de la distance, il me fallait un contrepoids. Alors j'en ai trouvé trois ouvrages qui se complètent assez bien, qui évidemment sont souvent en désaccord, mais qui se complètent très bien. Il y a tout d'abord un petit ouvrage d'Anne Épaulard, qui a enseigné d'ailleurs dans le DEA à l'époque, d'épistémologie économique, et qui s'appelle « Les modèles appliqués de la macroéconomie ». C'est un tout petit ouvrage chez Duneau, qui date de 1997, et qui permet de comprendre, une fois l'impulsion keynésienne donnée, comment les modélisateurs ont construit leur propre monde, en quelque sorte, la dynamique instrumentale qui est venue après Keynes. Et c'est un livre absolument remarquable pour ça. Il n'y a qu'un défaut, c'est le 97, il ne voit pas un certain nombre de développements récents. Ensuite, Marc Lavoie, le petit ouvrage sur l'économie post-keynésienne, qui est un effort synthétique, là où il y a des chapelles parfois agressivement distinctes, pour dire, attendez, il y a quand même beaucoup de choses qui vont ensemble, etc. Et il les met ensemble extrêmement bien, et donc c'est en quelque sorte les keynésiens fondamentalistes, ceux qui n'ont pas voulu entrer dans l'instrumentalisation d'ISLM, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est un deuxième ouvrage. Et puis le troisième, c'est l'ouvrage récent de Michel De Broglie, bien sûr, qui s'appelle « Keynes-Lucas, d'une macroéconomie à l'autre ». Eh bien, cet ouvrage contient toute une série d'analyses avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord, mais qui sont extraordinairement stimulantes pour comprendre le renversement de Lucas, le moment totalement anti-keynésien qui commence dans les années 70-80. Voilà donc les références. Alors maintenant, ce que je vais vous dire va se répartir en quatre parties, quatre sous-parties. Tout d'abord, je vais voir toute une série de choses liées à Alfred Marshall, qui, selon moi, sont un point d'entrée extrêmement utile et important pour comprendre Keynes. Alfred Marshall était le maître de Keynes, et donc je voudrais préciser son rapport singulièrement complexe et évolutif à son patron. Ce sera la première chose. Ensuite, je ferai toute une série de remarques sur ISLM. Vous avez sans doute vu que j'ai placé ISLM à l'intérieur du chapitre qui traite de la théorie générale. Il y a là de quoi horrifier un keynésien sincère fondamentaliste. C'est honteux de mettre dans le même chapitre ce qui est la substantifique moelle, ce qui est vrai de vrai de chez Keynes, et puis de mettre l'horreur, la perversité, la déviation fondamentale. J'y reviendrai, j'ai voulu les mettre. Alors j'ai mis une petite cloison par feu quand même, je n'ai pas confondu, mais j'ai voulu les mettre dans le même ensemble. Donc, un mot là-dessus. Ensuite, je tenterai de dire quelque chose sur la rupture épistémologique dont Keynes aurait été l'origine ou une première manifestation, je voudrais en dire un mot. Et enfin, eh bien, évidemment et logiquement, je vous poserai une question à laquelle Keynes manifestement n'a pas pu répondre, donc évidemment je n'y répondrai pas, mais je mets un point d'interrogation, je mets au-delà de Marshall, parce que nous verrons que Keynes a un mal fou à se séparer de Marshall, et que probablement une des limites du processus de créativité, c'est à la fois un levier, c'est à la fois un motif, mais c'est aussi une limite eh bien, c'est le fait qu'il n'a pas su, pas voulu s'affranchir complètement de la tradition marshallienne. En tout cas, c'est l'intuition que je voudrais développer brièvement. Donc, alors le premier point, Alfred Marshall. Alors, je vais partir, en fait, de la théorie générale elle-même, avant d'en venir à Marshall, et je voudrais tout simplement évoquer deux citations qui sont très connues, qui sont deux citations radicalement différentes, par lesquelles Keynes dit deux choses quasiment opposées, l'une au début, l'autre à la fin de la théorie générale, et c'est évidemment l'opposition entre un keynésianisme radical qui prétend faire une révolution, et puis un keynésianisme qui dit, écoutez, c'est pas si radical que ça, on va regarder, c'est plus souple, etc. Alors, je vous les donne, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est comment lire Keynes. Eh bien, c'est de le lire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Donc, allons-y. Voici donc, tout d'abord, le Keynes ironique et radical. Les théoriciens de l'école classique ressemblent à des géomètres euclidiens, qui, se trouvant dans un monde non euclidien, et constatant qu'en fait, les lignes droites, qui semblent parallèles, se coupent fréquemment, eh bien, ces géomètres reprocheraient aux lignes leur manque de rectitude sans remédier autrement aux malencontreuses intersections qui se produisent. En vérité, il n'y a pas d'autre remède que de rejeter le postulat d'Euclide et de construire une géométrie non euclidienne. Une opération de ce genre est aujourd'hui nécessaire dans la science économique. Et évidemment, Keynes implicitement prétend avoir fait cela. Donc, voilà un appel direct à la révolution, le keynésianisme ironique et radical. Et bien alors voilà, dans le dernier chapitre, notre critique de la théorie classique acceptée par l'économie politique a consisté moins à relever des erreurs logiques dans son analyse qu'à mettre en évidence le fait que ces hypothèses implicites ne sont jamais ou presque vérifiées, de sorte qu'elles se trouvent incapables de résoudre les problèmes économiques du monde concret. Voilà la phrase consignante. Mais aussitôt que les contrôles centraux auront réussi à établir un volume global de production correspondant d'aussi près que possible au plein emploi, la théorie classique reprendra tous ses droits. Alors, cette formule, elle est très troublante parce qu'on en a l'écho aujourd'hui. Regardez, on a l'an dernier relancé les économies, et on a l'impression qu'aujourd'hui, bon, bah, écoutez, Keynes, merci beaucoup, hein, la fameuse trousse de secours du capitalisme, maintenant, veuillez laisser faire les gens sérieux qui parlent en termes d'équilibre général, etc. Donc, vous voyez que nous avons ici deux Keynes. L'un est radical et tranchant, l'autre est conciliant, et c'est cette ambiguïté que je voudrais prendre au sérieux, explorer. Alors, il me semble qu'elle s'alimente à Alfred Marshall. Alors, quelques mots sur Alfred Marshall. J'ai déjà suggéré donc un motif, un levier, une limite, donc énormément de choses. Je voudrais tout de suite dire qu'Alfred Marshall est un immense auteur qui mériterait autant d'efforts que Keynes, et que je n'ai pas fait ces efforts. J'en connais des bouts. J'ai regardé ce que Keynes dit de Marshall. Il me semble que c'est important. En particulier, Marshall meurt en 1924 et Keynes, à ce moment-là, fait un discours qui ensuite devient un texte très long, d'une centaine de pages, dans lequel il explique énormément de choses sur Alfred Marshall. C'est évidemment intéressant de regarder ce qu'il dit d'Alfred Marshall. Alors, d'abord un petit peu de psychologie. Bon, la psychologie élémentaire, on ne va pas trop se compliquer la vie, mais tout de même. Pourquoi Keynes était-il un économiste réticent? Bon, j'ai une hypothèse. Son père était économiste, John Neville Keynes, économiste bien connu. Un économiste dépressif. Un économiste que je qualifierais de géniard, ayant lu sa correspondance. Il va encore pleuvoir, il va encore avoir la grippe, Marshall va être fatigué, il ne va pas pouvoir faire ses devoirs, Ménard. Bon, voilà ce qu'on obtient. Bon. Et cet auteur-là, remarquable, mais dépressif, c'est son papa. Et Alfred Marshall, c'est qui par rapport à Neville Keynes? C'est le patron. C'est le patron qui dit, mon petit Neville, vous me ferez ci. Portez-moi ma serviette. Oh oui, Alfred. Bon, et donc voilà ce qu'on obtient. Un homme soumis, brillant mais soumis. Je caricature, mais c'est pour faire sentir la position. Voilà ce que voit le jeune Keynes quand il est tout petit. Et donc, Alfred Marshall symbolise l'économie totalement dominante à l'époque en Angleterre. Mais il ne l'aime pas. Ben, c'est quand même normal. Et donc, la réticence première de Keynes, c'est tout sauf l'économie. Des maths, les nas, les probas, ce que vous voulez, pas l'économie. C'est un peu ça. Et puis finalement, il va y venir. Alors c'est ça, l'économiste récalcitrant. Et mon intuition est toute simple. C'est de la très mauvaise psychanalyse, mais je vous signale quand même aussi bêtement que je l'ai tout d'un coup constaté. Mais il veut tuer Marshall. Il veut venger son père. Attendez, c'est le Cid. Vous savez dans le Cid, hein, le Cid tue donc Gormaz. Bon, ensuite, il part avec la fille. Bon. Mais le Cid, c'est une réussite édipienne extraordinaire. On tue le père et on est reconnu. C'est formidable. Et là, c'est ce qu'il a fait. Alors, mais il a vengé son père par là, évidemment. Il l'a aussi, évidemment, un peu dominé de sa sollicitude et de son pouvoir. Et en même temps, il a tué son père intellectuel, Alfred Marshall. Vous voyez qu'il y a là, me semble-t-il, une hypothèse psychologique que je simplifie à outrance, hein, qui fait sourire sous la forme que je viens de la donner, mais qui, me semble-t-il, explique un certain nombre de choses. Alors, bref, il s'ennuie, il a fait une sorte d'ENA, le concours des uns. Il s'ennuie, démissionne, Marshall lui dit « Mon petit Ménard, venez avec moi, nous allons faire de l'économie. » Il fait de l'économie, et tardivement, hein, donc Keynes a quelque chose d'un autodidacte. Hein, c'est assez curieux, ça. Il est formé par Marshall, attendez, il est formé par le plus fort des plus forts. Et en même temps, il a quelque chose d'un autodidacte, il lit Adam Smith à 25 ans, c'est tard pour un économiste malgré tout, surtout anglais. Voilà, donc il y a un certain nombre de décalages qui apparaissent ici, et il va se mettre dans le sillage de Marshall. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va être très loyaliste, et en 1924, il est encore très très loyaliste. Très correct, vous allez voir. Et en même temps, il profite de l'appui de Marshall. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Comment se situer par rapport à Marshall? Ah ben, c'est tout simple, il faut se mettre là où Marshall n'a pas publié. Et ben, alors, donc, sur quoi Marshall n'a-t-il pas publié? Sur la monnaie. Alors, Keynes écoute les cours de Marshall, il faisait beaucoup de cours oraux tout à fait remarquables sur la monnaie, hein, le cas de Cambridge, toutes ces choses-là. Bon, et Keynes, ben, disons-le, le pompe. Et donc, c'est un loyalisme avec un petit pillage discret. Alors, le Cid, il se met dans l'orbite, mais on peut considérer que les premiers travaux de Keynes qui l'ont fait remarquer sont des travaux sur la monnaie, où tout simplement il applique Marshall à la monnaie, et Marshall a publié très très tard, seulement dans les années 20, ses écrits monétaires, où on retrouve en fait tout ce que Keynes avait déjà utilisé antérieurement dans les années 1910, 1915, 1920. Donc, déjà une attitude pas totalement franche du collier. Quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'hommage de 1924? Mais là, je vais rentrer dans plus de détails, parce que plusieurs choses se passent. D'abord, ça reste un hommage, il ne le critique que sur une seule chose, à l'époque. C'est que Marshall est machiste. Marshall s'est très mal conduit vis-à-vis de son épouse, Marie Marshall, qui était une économiste remarquable, et qui n'a jamais eu l'autonomie ni la reconnaissance qu'elle aurait mérité, et Keynes le dit. Et le dit avec une clarté, une simplicité. Là, c'est tout son côté Bloomsbury émancipé, hein, pré-68 art, en quelque sorte, qui apparaît. En tout cas, Keynes, de ce point de vue-là, véritablement critique Marshall. Mais pour tout le reste, attendez, Marshall a des limites, mais Marshall a tout bon, à peu de choses près. Alors, en particulier, je voudrais noter un passage que je qualifierais de malheureux. Et vous allez voir pourquoi. Donc voilà Alfred Marshall, hein, le fameux éloge, et le passage est le suivant. L'apport principal de Marshall, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'il y a un système économique qui vient enrichir l'équilibre général, donc on se place dans le cadre du marginalisme, réconcilié plus ou moins avec le ricardianisme et la valeur travail, ça c'est un côté marshallien très éclectique, et alors il dit ceci. Marshall a découvert un système copernicien. Malheureux. Attendez, qu'est-ce que c'est que la théorie générale par rapport au reste? Qu'est-ce que c'était? C'était la révolution copernicienne. La Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais ça tourne autour de la demande effective. Vous voyez que c'est la métaphore dont Keynes avait besoin. Par quoi est-ce qu'il la remplace? Mais par la géométrie non euclidienne, par Riemann. Mais il va créditer Marshall de la révolution copernicienne. Par rapport à qui? Par rapport à Ricardo et par rapport à Balras, Chibons et Menger. Donc c'est Marshall qui est déjà l'innovateur radical qu'il aurait voulu être d'une certaine manière à cette époque-là. Donc vous voyez, il se ferme en tout cas la voie d'une métaphore, bon, seulement une métaphore, ça n'empêchera pas de prendre des limites, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe là qui est intéressant, c'est qu'il va créditer Marshall d'un certain nombre de choses qui correspondent à lui. Alors il y a aussi une description de l'économiste, où on se demande s'il parle de Marshall, de lui tel qu'il serait et s'imagine. C'est un passage assez connu. Donc vous voyez, quelque chose de très ambigu dans cet éloge, mais c'est un éloge qui est tout à fait entier. Il n'y a pas l'idée qu'on puisse prendre de la distance, nous sommes en 1924. Alors, ici il faut bien voir quelque chose, c'est que pour Keynes, Marshall le libère de la révolution marginaliste. Il le libère en particulier de Gibbons, vis-à-vis duquel il a été souvent élogieux et critique et très agressif par certains points. Et donc, il a toujours pris une distance énorme. Alors, pour vous donner quelques énoncés typiques de Keynes, Keynes écrit en 1934 à Hicks, « Le système valracien, c'est little better than nonsense. C'est pas beaucoup mieux qu'une absurdité. C'est un tout petit peu mieux qu'une absurdité. » Une prise de distance très forte. Je vais vous donner une autre image qui m'a beaucoup amusé, à propos de Gibbons toujours. Il dit que Gibbons, c'est comme un sculpteur qui serait en train de ciseler des statues extrêmement froides. Il cisèle. Et pendant ce temps, que fait Marshall? Il tricote. Il tricote de la laine. Et donc l'opposition est entre un sculpteur qui va ciseler des arabesques de pierre inutiles et froides, et puis... Ben, quelqu'un qui fait un vêtement pour l'hiver, et un vêtement d'ailleurs un peu large, hein, dans lequel finalement on peut se sentir bien. C'est une image qu'il a à propos de Marshall lorsqu'il veut critiquer Gibbons. Et vous voyez qu'il y a là toute une sorte de point de bifurcation intellectuelle. Et de ce point de vue-là, Marshall est très très important, puisque comme vous le savez, cette distance-là, Marshall l'a prise pour Keynes. Keynes va continuer à la prendre, et puis que, ben, aujourd'hui, ben, c'est plutôt cet autre côté transformé avec l'équilibre général tel que nous connaissons aujourd'hui, qui est apparu comme le ressort anti-keynésien. Vous voyez que la bifurcation se fait extrêmement tôt, déjà, chez Marshall. Alors, l'ambivalence se maintient dans la théorie générale elle-même. Alors ça, c'est moins connu. Dans la théorie générale, on le casse. Tout d'un coup, il y a une sorte de condensation, on pourrait presque dire de concaténation. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il a une lecture épistémologique rétrospective et il dit, voilà, il y a les classiques et moi. Et les classiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Marshall et Ricardo. Donc, tout d'un coup, tout est rassemblé. Et donc là, il prend la distance. Et on a l'impression que cette distance, elle est vraiment définitive, que ça va être d'autres méthodes, d'autres choses, etc. Et puis, il y a une chose qui est très connue, c'est que le plan de la théorie générale est strictement décalqué des principes de Marshall. Strictement décalqué, avec des conséquences dont certaines sont comiques, parce qu'il y avait une logique à l'exposition chez Marshall, et là, ça va donner parfois des chapitres qui font une page, et parfois des parties dont l'objet ne correspond pas à la progression qu'on attendrait, ce qui rend la théorie générale très difficile à lire dans sa progression, parce que chez Marshall, c'est absolument transparent, et là, ça n'est pas du tout. Et donc, il y a en fait une torsion dans cette référence qui est maintenue. Le plan des principes, pour lui, c'est l'alpha et l'oméga d'une belle théorie. C'est ça qui est un peu étrange, mais que je voudrais souligner. Alors, j'en viens maintenant très brièvement au fond de cette affaire, et on va quitter Alfred Marshall à ce moment-là. Comment concevoir la macroéconomie par rapport à Marshall? Vous savez peut-être que Marshall, si j'avais à résumer en quelques mots sa conception de l'équilibre général, c'est une conception en fait dynamique et adaptative. C'est pas du tout l'optimisation instantanée, c'est pas du tout les plans d'optimisation qui doivent être rendus cohérents, ça ce serait la perception valracienne. C'est des acteurs dans des niches qui, finalement, sont dans une série de processus d'apprentissage. Il y a des institutions. Alors, bien sûr, ils maximisent, mais ils maximisent dans leur motivation. Et ensuite, eh bien, ils apprennent au cours du temps, se transforment. Et donc, il y a toute une mécanique qui s'installe ici. Et finalement, je vais reprendre quelque chose que vous savez sans doute, c'est que la théorie monétaire de Marshall, c'est le fait d'introduire le revenu comme déterminant la quantité de monnaie, de la manière dont ça fonctionne. Ben, ce revenu qui est là, c'est déjà un petit peu l'intuition de la macroéconomie, c'est-à-dire le fait que les acteurs vont prendre des décisions, ils vont produire, ils vont vendre, il n'y a pas que les prix. Et d'un certain point de vue, là je vais dire quelque chose qui est inexact, mais qui fait image, d'un certain point de vue, l'intuition de la macroéconomie, c'est que les quantités vont plus vite que les prix. C'est le fait que, voilà, si les gens s'achètent et se vendent, il va se passer des tas de choses avant que les prix ajustent pour stabiliser le système. Vous voyez, cette intuition qui est ici reprise, et donc on peut dire de manière très simple que la création de la macroéconomie chez Keynes, ça correspond à une manière de pousser Marshall au-delà de lui-même. Il est fidèle à Marshall, et puis hop, il débouche sur un espace que Marshall n'avait ni conçu, ni voulu prévoir, mais sur la base même des préoccupations de Marshall. Vous voyez que Marshall, à mon sens, est bien l'aliment de sa démarche créatrice. Alors, est-ce que c'est le point sur lequel retombent ces énoncés théoriques? Ça, il faudra en discuter, d'autant que Marshall est ambigu et complexe, mais il me semble qu'il y a là un ressort qu'on peut mentionner. Alors, ça me mène à ISLM. ISLM, vous le savez, c'est le traître. C'est Hicks, 1937, qui reformule dans un très bref article d'Econometrica les principaux énoncés de la théorie générale. Alors, là je vais prendre Dostaler et je vais remarquer quelque chose d'amusant. C'est que Dostaler, lorsqu'il présente la théorie générale et le moment où Keynes développe ses propres travaux, et puis ensuite il y a la crise cardiaque, et puis ensuite il y a d'autres travaux qui vont approfondir la comptabilité nationale, etc. Bon, lorsqu'il prend en quelque sorte la chronologie de cette affaire, Dostaler ne parle pas de ISLM. C'est pas bien ISLM. Et donc en conclusion, seulement en conclusion, il dira par ailleurs, en 1937, John Hicks a écrit ceci, et il dit Keynes avait déjà par avance répondu en écrivant l'article qui est assez connu, dont j'ai la référence ici, The General Theory of Agreement, qui est un article qui, par avance, en quelque sorte, neutralisait la perversion de Hicks. Alors, petite remarque là aussi amusante, si je vais dans la bibliographie de Gilles Dostaler, Dieu sait qu'elle est grosse et qu'elle est belle, eh bien l'article de Hicks n'y est pas. Et ça fait partie du petit plaisir du chercheur, donc tout d'un coup on va vérifier, mais comment ça se fait, c'est pas souvent cité, je regarde, il n'y est pas. Voilà, donc Dostaler est un keynésien sincère, moi non, probablement, mais en tout cas, évidemment, de mon point de vue, ça prouve à quel point, au cœur de la tradition keynésienne, il y a des traditions de rejet de cet apport. Alors, revenons un petit peu sur l'attitude de Keynes, quand même, vis-à-vis de Hicks. Je vous l'ai indiqué, Keynes répond au quart de tour, vous écrivez quelque chose, le soir même il l'a lu, le lendemain vous avez ses observations, et Dieu sait qu'elles sont méchantes et décourageantes. Bon, en gros, c'est comme ça que ça marchait. Alors, vous répondiez si vous aviez l'estomac, ça repartait, etc. Bon. Or, voilà la chronologie. Nous sommes en 1936, la théorie générale est sortie au début de l'année, et il y a une conférence qui est en septembre, à Oxford, qui est une conférence sur comment mathématiser la théorie générale. C'est déjà là, c'est ça le sujet. Y participent les vrais disciples de Keynes, notamment Mead et Harrod, Harrod surtout. Et donc il y a un papier de Mead, un papier de Harrod, et c'est là que Hicks va proposer un papier. Alors, X fait son papier et il l'envoie à Keynes en octobre. Donc, octobre 1936, Keynes a déjà le papier de X. Et Keynes va attendre 6 mois avant de lui répondre. Alors, on dira, oui, t'es fatigué, t'es malade. Non, 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 la crise cardiaque, c'est après, hein, c'est en avril. Et là, nous sommes en mars. Ok, je veux bien. Mais tout de même, pour quelqu'un qui répond du jour au lendemain à quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez ici l'interrogation facilement qu'on peut avoir. Alors, on regarde la lettre que Keynes a écrite à Hicks en 1937, en mars, 31 mars, où il lui dit « Je n'ai pas de critique à faire, c'est très bien. » Et puis ensuite, il fait une critique, quand même, attendez, on est Keynes, donc quand même, il fait une critique. Et la critique, elle consiste à dire « Tout ce que vous mettez en équation, ça ne prend absolument pas en compte l'instabilité des anticipations, le côté volatile de l'état de la demande, tout ça, vous ne le voyez pas, donc évidemment, ça manque. Bon, bon, il ne dit pas plus. Hein. Alors, il ne le dit pas méchamment, effectivement, il dit, en fait, je n'ai pas vraiment de critique à faire. Et puis ensuite, il se tait sur cette affaire-là. Alors, on pourrait dire, oui, mais il est occupé, il est fatigué, il a d'autres choses à faire. Bon. Regardez un petit peu ce qui se passe en 1938-39. Là, il y a Tim Mergen qui fait une première modélisation macroéconomique, et qui n'utilise pas les multiplicateurs, mais qui est quand même une modélisation macroéconomique. Bon voilà, c'est la première à la demande de la STN, la Société des Nations, et Keynes va se répandre contre cette affaire-là, avec une énergie et une virulence extraordinaire, avec quoi ? Le même argument que pour X, c'est-à-dire, vous prétendez capter dans quelques équations l'instabilité, la volatilité des anticipations et de la demande effective. Il y a un peu de poids de mesure quand même, et il faut voir ce que Tim Mergen a pris. Et X, non, non. Donc, il me semble que Keynes... Alors, il y a ceux qui disent qu'il ne s'est pas rendu compte de l'importance de X. Keynes manquait de clairvoyance. Ça, à mon avis, c'est une hypothèse qui est coûteuse. Hein. Moi, j'ai plus l'impression que nous sommes tout à fait dans l'ambivalence qu'on a vu lorsque je vous ai lu les deux passages de la théorie générale, et qu'il est content de voir un schéma où il y a à la fois son cas à lui et le cas... De l'économie classique, parce que c'est ça ce que fait X avec ISLM, et que finalement, lui, il pense que c'est lui qui va l'emporter, que son cas est plus important. Mais finalement, il est content de les voir tous les deux dans cet espace qui est un espace, bah, comme vous le savez, assez consensuel. Alors, je termine sur ISLM par juste une petite remarque méchante de X. Il a écrit ceci. Il remercie Keynes dans son article en disant qu'il réinstalle le niveau de revenu comme facteur déterminant la demande de monnaie. Et il va dire, Monsieur Keynes a fait un grand pas en arrière en direction de l'orthodoxie marchandienne. Et donc, on retrouve le ferrailleur qui le renvoie à Alfred Marshall. Vous voyez que nous sommes face à une équivocité, et il me semble que Keynes, qui n'avait pas peur de l'équivocité du tout dans certains cas, l'a laissé vivre. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait mettre ça dans la région. Alors, ça me mène maintenant au troisième point de cette deuxième partie, c'est-à-dire quelle rupture? Où est la rupture? La fameuse rupture épistémologique. Alors, Copernic ou Riemann, vous voyez que finalement, Keynes est allé vers la géométrie non euclidienne parce que Copernic était déjà pris. Enfin, moi, c'est mon intuition. Alors, est-ce que c'est une vraie rupture? Une rupture bidon. Bon, il y a eu un livre extrêmement bien fait là-dessus, fait par un anti-keynésien très civilisé qui s'appelle David Legler. Et alors, le titre est très joli, c'est Fabricating the Keynesian Revolution. Donc, la fabrication de la révolution keynésienne, avec tout ce que ça a de factice. À la fois, il y a l'idée que oui, ça a été un processus de production, mais c'est aussi quelque chose de fabriqué. Il y a quelque chose d'un peu bidon dans la révolution keynésienne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses évidentes. Il y avait plein de relations macroéconomiques avant Keynes. Prenez les schémas d'accumulation de Marx, prenez Ricardo. Bon, cette vision globale, elle existait déjà depuis longtemps. Keynes a pillé les Suédois. Keynes a pillé Wicksell. Bon, ça, c'est assez connu. Et même Autrey, d'un certain point de vue, un de ses collègues d'ailleurs de Cambridge, qui était d'ailleurs apôtre comme lui. Donc, Keynes a pris des tas de choses. Keynes est moins important. La macroéconomie existait avant Keynes, et le mot, même le mot, c'est pas Keynes, c'est Ragnar Frisch. Bon, donc, vous voyez qu'il y a là toute une sorte de mise à distance. Je veux dire, dans le fond, c'est pas si important. Alors, mon intuition, ici, va être extrêmement simple, c'est de dire qu'il y a eu un moment Keynes. Oui, tous ces gens-là sont là. Mais quand il y a ce genre de révolution, il y a toujours plein de gens qui sont tout prêts, et qui l'ont quasiment fait, mais qui l'ont pas fait. Et Keynes a peut-être pillé, mais il a su catalyser, condenser, et il a su surtout, c'est ça, je crois, l'apport essentiel, il a su faire basculer cette affaire-là vers une instrumentation. C'est-à-dire qu'il a rencontré les pratiques de comptabilité nationale, il a, en fait, saisi qu'avec un outil tel que le multiplicateur et la comptabilité nationale, on pouvait dire quelque chose de différent et impulser quelque chose que les Suédois n'ont pas impulsé, que, etc. Je ne sais pas quel genre aurait pu impulser, n'ont pas fait. Bon, d'autre part, il était anglais, et ça, c'est manifestement un avantage pour faire une révolution. Quand on est Suédois et qu'on ne peut pas lire votre langue, ça se passe moins bien. Je remarque d'ailleurs que Keynes a fait traduire l'ouvrage principal de Wicksell. C'est paru en 1936, et ça a été traduit par Kahn, son disciple. Donc, juste au moment où, lui, de toute façon, il était déjà passé à une autre étape. Alors, donc, à mon sens, il y a un moment Keynes, et c'est cette instrumentalisation qui me paraît très importante dans les intuitions de Keynes. Il avait un goût extrême pour les statistiques, les indices, ce genre de choses, et une recherche d'instrumentation qui, là aussi, évoque un peu Marshall. Chez Marshall, le concept d'élasticité est un concept, vraiment, un apport central de Marshall. Eh bien, on peut considérer que le multiplicateur, c'est un peu l'élasticité de Keynes, dans certains points de vue. Il y a un peu cette idée d'une autre instrumentation qui apparaît et qui condense. Alors, attention ici, il ne faut pas tout mélanger. En effet, il me semble qu'il y a eu, après la mort de Keynes, une vie propre, même pendant la vie de Keynes, d'ailleurs à la fin de sa vie, une vie propre de l'instrumentation keynésienne. Il y a eu, évidemment, toute la technologie des macroéconomistes qui résonnent en termes d'output gap, par exemple. Il y a eu, évidemment, tout ce qui s'est passé autour de la courbe de Phillips. Il y a eu les grands modèles, puis ensuite les petits modèles, les modèles par bloc, etc. Il y a eu les modèles qui sont validés coefficient par coefficient, il y a ensuite les modèles qui sont validés mais dans des formes réduites, il y a ensuite les modèles qui sont simplement calibrés. Vous voyez, toute cette vie qui apparaît là, il me semble que Keynes, alors, en est, à mon avis, l'initiateur, mais c'est une sorte de vie propre qui s'est développée à partir de là, se nourrissant de certains éléments qui étaient chez Keynes et aussi d'autres éléments qu'il n'avait pas du tout prévus. Alors, ça c'est une chose, mais il faut distinguer ça du keynésianisme pratique. Et là-dessus, je voudrais utiliser un ouvrage qui est assez connu, l'ouvrage de Peter Hall, qui s'appelle Keynesianism Among Nations or Across Nations, et c'est un livre qui date de 89, Le Keynesianisme dans les nations, et c'est un livre qui montre que la réception des idées de Keynes a été très variée. Il y a eu des pays qui n'ont pas aimé ça du tout, qui n'en ont pas du tout tenu compte, l'Allemagne par exemple, qui est un pays viscéralement anti-keynésien, il y a des cas très différents les uns des autres, et tout ce que l'on a tendance à assimiler au keynésianisme, c'est-à-dire les déficits publics, c'est-à-dire l'économie mixte, mais tout ça c'est pas Keynes. Alors, pour vous en convaincre, j'ai une suggestion. J'ai voulu voir les rapports entre Marx et Keynes, et j'ai tout simplement été chercher le livre de Paul Matic, qui s'appelle Marx et Keynes. Je me suis dit, ah, j'en ai avoir plein les mains. Il n'y a pas un mot sur Keynes. Keynes, dans ce livre, n'existe pas. Matic discute de quoi? De l'économie mixte, le fait qu'il y ait un capitalisme socialisé, et il se demande si ça évitera ou non la révolution. Ce qui est un débat parfaitement légitime, mais qui n'est pas du tout le débat de Keynes. Keynes était en faveur de déficits contracycliques. Keynes n'a jamais dit qu'il faut faire gonfler le budget de l'État jusqu'à ce que ça devienne 30% ou 40% du PIB. Il n'a jamais dit ça. Peut-être qu'il ne serait pas contre, je n'en sais rien. Il n'a jamais dit. Et il parlait d'une socialisation, ça oui. Mais cette socialisation n'était pas du tout théorisée sous la forme de la sécurité sociale, de l'économie mixte. Et donc il y a là quelque chose qu'il faut distinguer, me semble-t-il. Il faut distinguer l'apport de Keynes. L'apport de Keynes, c'est le contrôle par l'impulsion de la macroéconomie, il me semble-t-il. Alors, ça me mène évidemment à la deuxième rupture épistémologique, celle de Lucas. Qu'est-ce qu'on peut dire de Lucas? Ah, et manifestement, il y a un moment Lucas. Et lorsque on regarde le petit livre de Michel Devreuil que j'ai évoqué tout à l'heure, dans le moment Lucas, eh bien, pas dans le moment Lucas, pardon, à propos de Lucas, Devreuil dit, c'est une rupture épistémologique, personne ne la voit. C'est un changement de paradigme, tout change, etc. Bon, il est très clair là-dessus. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ben, nous avons un recul très amusant aujourd'hui. Dès lors qu'il y a eu la crise, tout le monde a redécouvert Keynes, et c'est la fameuse trousse de secours que j'évoquais. Tout le monde s'est mis à relancer en se disant oh, peut-être que les multiplicateurs sont très faibles, mais ça ne peut pas faire de mal, de toute façon il faut faire ça, si on ne fait pas. Enfin, un petit peu comme des gens qui auraient trouvé un logiciel, vous savez, dans le bas du tiroir du bureau, puis on le remet dans la machine, comme ça. Il est là, il est prêt à marcher, on l'utilise. Bon. Alors, évidemment, ça relativise beaucoup. La révolution lucassienne, ce n'est pas définitif comme argument, mais ça permet de comprendre qu'il y a une interrogation là derrière. Est-ce que le keynésianisme, au motif que Lucas et ses épigones existent, est-ce que le keynésianisme a disparu? Bah, il suffit de prendre un manuel de macroéconomie pour voir que derrière la demande globale et l'offre globale, c'est la grosse machine keynésienne qui est là. Alors, elle est amoindrie, elle est reniée, elle est réinterprétée, mais elle est encore là. Donc il y a une sorte d'ambivalence entre les pratiques des macroéconomistes, et puis cette tendance de recherche extrêmement radicale. Et à mon sens, ce qui est caractéristique de Lucas, comme d'ailleurs de Friedman, c'est la dimension retour de manivelle. Keynes vous a dit, on ne sait rien, on ne voit rien, c'est pour ça qu'il faut stabiliser les anticipations grâce à l'État. Donc, l'État est quand même bien quelque part clairvoyant. Donc, vous voyez le paradoxe, il y a une clairvoyance quelque part. Et maintenant, si vous prenez ce que dit Friedman et ce que dit Lucas, il dit, ah oui, il y a de la clairvoyance, mais ce n'est pas l'État. L'État, il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, il est maladroit, se trompe tout le temps, toujours en retard, il ne voit pas, il n'a rien prévu des interactions. En revanche, les acteurs, eux, sont clairvoyants. Et donc, il y a comme une sorte de retour de manivelle d'une clairvoyance à l'autre et d'un aveuglement à l'autre. L'État est idiot chez Friedman, il est nuisible chez Lucas. Et donc, on voit apparaître ici une sorte de renversement qui, à mon avis, s'alimente beaucoup plus aux formes para-keynésiennes, péri-keynésiennes en quelque sorte, que véritablement à l'interrogation de Keynes. Alors, ça me permet de situer Keynes face à ce qui est un problème, plus qu'une réponse, mais face à une grande évolution qui affecte l'économie depuis les années 1950, c'est-à-dire après la mort de Keynes. Alors, je veux parler de ce qu'on appelle maintenant assez souvent, pas toujours, la révolution cognitive, le fait qu'en économie, on s'intéresse de plus en plus aux apprentissages, aux anticipations. Alors Keynes avait largement devancé cette tendance, mais chez Keynes, il y a en quelque sorte du trop et du pas assez. D'un côté, cette idée, on ne peut rien prévoir, on ne peut rien prévoir. Et puis de l'autre, cette idée, oui, mais l'État va nous stabiliser tout ça. Vous voyez que quelque chose qui manque ici, qui met un petit peu mal à l'aise dans cette manière très instrumentale de faire les choses. Et il me semble que Keynes gagne à être situé par rapport, par exemple, à son ennemi de toujours, Hayek. Et Hayek va avoir son moment paradoxalement keynésien lorsqu'il va dire que la protection sociale ne doit pas être justifiée par l'idée de justice sociale. Ça n'existe pas cette affaire, parce qu'il faudrait connaître des tas de choses qu'on ne connaît pas, donc il vaut mieux laisser faire le marché. Vous connaissez l'argument radical, évidemment, totalement anti-keynésien de Hayek, mais on peut considérer que c'est l'irruption du cognitif dans un champ et qui inverse ce que dit Hayek, mais qui n'est pas si différent. Alors voyez ici l'intuition selon laquelle Keynes aurait anticipé, mais de manière très incomplète, un certain nombre de tendances d'aujourd'hui. Alors ça mène à mon dernier point, je ne suis pas trop long, un petit peu trop long, je vais accélérer un petit peu. Je voudrais dire un petit mot, donc, au-delà de Marshall, y a-t-il une vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais partir de l'ouvrage qui est sorti récemment, qui s'appelle Animal Spirits, donc les esprits animaux, donc un ouvrage qui est dû à Akerlof et Schelling, bon, donc un prix Nobel, Akerlof, un autre qui le sera peut-être un jour, on ne sait jamais, et donc des gens qu'on peut considérer comme sérieux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent ceci: il faut faire de la microéconomie qui fonde la macroéconomie. Alors c'est la vieille histoire, lancinante, hein, des fondements micro de la macro. Bon. Mais là, ils vont donner toute une série d'éléments microéconomiques qui ne sont pas du tout des éléments révolutionnaires, qui sont même d'une platitude extrême, mais qui sont la suite de ce que dit Akerlof sur la nécessité de l'équité, de la confiance réciproque. Et à partir de là, eh bien, ils construisent un certain type de fondement d'une version, je dirais, calme, d'un keynésianisme assez standard. Voilà ce qu'il faut. Bon. Alors, c'est quand même, je dirais, une microéconomie subordonnée. C'est-à-dire qu'on fait de la micro pour fonder la macro. Hein, c'est ça ce qu'ils font. Il me semble que c'est quelque chose qu'il faut faire respirer davantage. Alors, pour le faire respirer, deux choses. Une première chose qui est une remarque toute bête qui a été faite récemment, selon laquelle Keynes a mis les conventions, donc quelque chose de cognitif, au cœur de la finance, bien sûr. Et puis, il ne les a pas mises dans les autres marchés. Marché des produits, marché du travail, vous pouvez mettre des conventions. Alors, on peut le faire de plusieurs façons. Et Keynes n'a pas fait ça. Keynes s'est borné à en mettre là. Et après tout, si vous réfléchissez en termes de qualité des produits, en termes d'incertitude et d'innovation, vous êtes sur un endroit où on peut mettre des conventions, et c'est ce que font les conventionnalistes d'ailleurs. Vous pouvez aussi, pour le marché du travail, dire que les compétences, que les qualifications, c'est les conventions. D'ailleurs, quand on voit des chutes brutales d'employabilité lorsqu'il y a des restructurations, ben, on voit l'effondrement. Une convention. Vous voyez l'intuition ici qui apparaît. Alors de ce point de vue-là, Keynes est tout simplement incomplet. Alors faut-il faire tout ça? Peut-être. En tout cas, c'est très cher, parce qu'on risque de devenir, pas nécessairement conventionnaliste, mais cogniticien. C'est-à-dire qu'on va tout regarder à travers ces lunettes-là. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on fait encore de l'économie? Est-ce qu'on fait du cognitivisme? Vous voyez, là, il y a une frontière pas très facile. Alors, je vais terminer par la lecture d'un passage étrange et que je qualifierais de décevant de la théorie générale. Je vais prendre en effet un passage qui porte sur les facteurs subjectifs de la propension à consommer. Alors, les facteurs subjectifs de la propension à consommer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous donne la liste parce que c'est évidemment une liste. Et une liste, quand on la lit, qu'on se dit quand même, on est dans la théorie générale, il y a quand même un moment où on se demande où il veut en venir. Voici les facteurs. Ils sont en général, au nombre de 8. Premièrement, se constituer une réserve pour parer à des éventualités imprévues. Deuxièmement, se prémunir en vue d'événements prévus qui modifieront un jour le rapport actuel entre le revenu d'un individu et ses besoins personnels, etc. Bon, c'est report, c'est-à-dire que je vais garder de l'argent pour mes vieux jours. Bénéficier d'intérêts et de plus-value, une consommation différée plus abondante en valeur réelle paraissant préférable à une consommation immédiate plus réduite. Jouir d'une dépense progressivement croissante et satisfaire ainsi un instinct fort répandu qui pousse les hommes à envisager dans l'avenir une amélioration plutôt qu'une diminution graduelle de leur niveau de vie, même si leur faculté de jouir tend à s'affaiblir. Les vieux accumulent, ils pensent que c'est bon. Jouir d'une sensation d'indépendance et du pouvoir d'agir, même si on n'a pas une idée nette de ce qu'on fera ou l'intention arrêtée, c'est une chose déterminée. Sixièmement, s'assurer une masse de manœuvre pour réaliser des desseins spéculatifs ou commerciaux. Septièmement, léguer une fortune. Huitièmement, satisfaire la pure ladrerie, c'est-à-dire la répulsion irraisonnée mais obsédante pour tout acte de dépense en tant que tel. Bon, c'est évidemment un inventaire à la Prévert. Et maintenant, il s'en est rendu compte, alors il a résumé. Ces 8 motifs peuvent être ainsi dénommés. Précaution, prévoyance, calcul, ambition, indépendance, initiative, orgueil et avarice. Nous pourrions aussi établir une liste parallèle des motifs à consommer, tels que le goût du plaisir, l'imprévoyance, la générosité, l'irréflexion, l'ostentation et la prodigalité. Alors, il faut dire tout de suite que ça ne lui sert pas, parce qu'après il va dire que ces facteurs subjectifs ne bougent que très lentement, ce qui d'ailleurs est très 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 bizarre, vu tout ce qu'il dit sur les conventions. Enfin bon, ça ne bouge pas, donc on va pouvoir regarder là. Hein. Bon, donc de toute façon, c'est pas grave. Mauvaise pioche, mais c'est pas grave. Alors, Ce qui est quand même assez amusant, c'est quelle est l'ambiance que ça évoque, ça. Alors, ça évoque plusieurs auteurs, je vais vous en donner quelques-uns. Freud. Keynes aimait beaucoup Freud, et donc il y a ici du freudisme. Il y a aussi du moralisme, hein, du moralisme et de l'immoralisme, vous avez les deux. Ce sont des vices, des vertus, tout ça est mélangé. D'ailleurs, les termes ne se correspondent même pas. J'ai voulu prendre les termes pour voir si à chaque vice correspondait une vertu et réciproquement. Non, ça ne marche même pas comme ça. Ça a été écrit sur un coin de table, c'est clair. À qui ça fait penser encore? Ça fait penser à Moore, le philosophe que Keynes aimait beaucoup, hein, évidemment. Ça fait penser aussi à des très vieux auteurs scolastiques, là je ne résiste pas à l'envie de citer Martin de Aspilicueta, qui distinguaient 8 motifs de détenir la monnaie, dont l'un est simplement se réjouir à sa vue. Alors, ces motifs, bon, et c'était un théologien du XVIe siècle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Eh bien, on est dans de l'infra-Marshall, ou du post-Marshall, on est au delà des pas chez Marshall. On est dans un domaine que Keynes n'a pas voulu approfondir, à mon sens. Et ce domaine immoraliste, ce domaine qui est en quelque sorte l'envers coloré de la loi psychologique fondamentale. Parce que la loi psychologique fondamentale, c'est simplement, comme vous le savez, si j'ai plus d'argent, j'en consomme, mais seulement une partie. C'est ça, la loi psychologique. D'ailleurs, elle n'est pas psychologique, il faut le dire. La psychologie, elle est là. Donc nous sommes dans cette espèce d'espace que Keynes n'a pas pu, pas voulu explorer. Et vous voyez qu'ici, ben, y a toute une ouverture qui, pour l'instant, n'est pas exploitée. Alors, je vais terminer par une dernière citation, une seule, ce sera fini. C'est la préface, la très belle préface qu'a fait en 2006 Paul Krugman à la théorie générale. Il a fait une préface magnifique, et dont les derniers mots sont les suivants. Vous allez voir que ça s'accorde bien à l'exposé que je vous ai proposé. C'est « Just read it and marvel ». Lisez-le simplement et émerveillez-vous. Merci.